Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette phrase prononcée par le Christ se trouvent réunis tous les éléments qui caractérisent et expliquent l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Dieu a donc aimé le monde d'un amour désintéressé. Il a aimé sa créature au point de lui sacrifier son Fils unique. Il a donné, il a abandonné au monde le Fils de son amour. Et nous avons ici la plus pure définition de l'amour, car aimer, c'est donner et c'est se donner. Mais dans quel but? Pour quelle raison Dieu est-il ainsi intervenu? Parce que le monde était en train de périr dans l'atmosphère asphyxiante du péché. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsqu'on évoque la venue du Christ, sa vie et sa crucifixion, on en parle souvent comme on parle d'un événement historique quelconque, comme d'une influence qui a subsisté jusqu'à nos jours, on ne sait trop comment. On oublie alors le sens de cette vie. On oublie le thème de son message. On oublie que le Christ est venu pour libérer les hommes du mal dans lequel ils se sont emprisonnés. C'est cela sa mission. Et si on a oublié cela, on n'a rien compris au sens de la vie et de la mort de Jésus de Nazareth. Il suffit de feuilleter les pages de la Bible pour replacer le Christ dans son cadre réel. En fait, sans la Bible, que serions-nous de Dieu? Que serions-nous de nos origines et de notre destinée? Que serions-nous du Christ et de sa mission en particulier? Virtuellement rien. Aujourd'hui, je vous invite à examiner les Écritures avec moi. Nous y relèverons toutes les expressions, ou du moins les plus caractéristiques, qui décrivent l'œuvre du Christ pour les pécheurs que nous sommes. L'œuvre du Christ en faveur des hommes est une œuvre de salut, de rédemption, de justification et de réconciliation. Et cette œuvre nous concerne tous personnellement. Voyons tout d'abord le salut. Le dictionnaire nous dit que ce mot décrit l'action de sauver. Nous pouvons ajouter qu'il suggère l'idée de danger ou de perdition. Or, dans le message du Christ, comme dans celui de tous les prophètes, ce danger, ce péril, a pour nom le péché. C'est le mal sous toutes ses formes, sous toutes ses nuances, mais un mal tel que l'homme est impuissant devant ses effets et ses conséquences. Il lui fallait une aide extérieure à lui-même. Le péché est décrit comme un maître qui règne sur son esclave, comme une maladie mortelle. Le pécheur est un homme égaré qui ne retrouve plus sa route. C'est un homme à la mer et qui se noie. C'est un prisonnier de la vase dans laquelle il s'enlise. De passage à Lausanne, en Suisse, je parlais avec un médecin du rôle de la foi dans la guérison. Et je me souviens très bien de sa grande surprise, lorsqu'au cours de notre conversation, je lui fis découvrir, car ce fut une découverte pour lui, que dans la Bible, le salut est inséparable de la notion du péché. Trop de personnes se font du salut une idée plus ou moins fantaisiste. Pour la plupart, c'est un état céleste, un domaine du rêve et de l'irréel, avec des nuages et des anges. Tout cela dénote une navrante ignorance des principes fondamentaux de la religion du Christ. Car, avant d'envisager ce qu'il y a pour nous dans le ciel, le salut concerne d'abord notre existence actuelle. Le salut, c'est d'abord sortir de la vase. C'est trouver un chemin et un guide après avoir erré dans un labyrinthe. C'est prendre connaissance du fait que Dieu nous pardonne et qu'il oublie tout le mal qui habite en nous et qui nous imprègne. L'ange avait dit à Joseph que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'apôtre Paul écrit, « Car lorsque nous étions tous sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À travers le livre des Actes des Apôtres, c'est partout la même promesse, le même message qui est à la base de la fondation de l'Église, à savoir le pardon des péchés au nom du Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le pardon des péchés en Christ nous invite à considérer la notion de réconciliation. Réconcilier, c'est rétablir de nouveau l'harmonie entre les personnes séparées par de sérieuses inimitiés. Les Écritures déclarent que c'est le péché qui dresse un mur entre Dieu et l'homme. Mais de quelle sorte de péché s'agit-il, demanderons-nous avec quelque impatience. Car nous avons singulièrement insisté sur la question du péché, question qui n'est plus à la mode, il faut le dire. Justement, ce qui nous trompe, c'est de penser que les péchés que nous commettons sont d'une espèce plutôt inoffensive. Il est vrai que certains gens commettent des choses haïssables, et c'est sans doute contre eux que se tourne la colère de Dieu. Voilà généralement notre manière de penser, et elle est dangereuse. Car qui sommes-nous pour juger de la gravité du mal devant Dieu? De quels critères nous servons-nous pour déterminer qu'un tel acte est pire qu'un tel autre? Nos balances et nos mesures sont généralement fausses, toujours changeantes. Mais le livre par lequel Dieu se révèle à nous et nous parle, ce livre déclare que nous sommes tous sous l'empire du péché. Il n'y a pas d'exception, et nous devons nous soumettre à cette constatation. Dieu voit que chacun d'entre nous a goûté pour sa part à quelques fruits de malédiction qui l'a séparé de la lumière divine. Dieu voit que chacun de nous a besoin d'être secouru selon le plan qu'il a mis à exécution en Christ. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens qu'ils étaient autrefois étrangers et ennemis par leurs pensées et leurs mauvaises œuvres, mais qu'ils sont maintenant réconciliés par la mort du Christ pour paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Dans sa lettre aux Corinthiens, on trouve un très beau passage qui décrit son apostolat comme un ministère de réconciliation. « Si quelqu'un est en Christ, dit-il, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Chers amis, ce cri du cœur traverse les siècles et nous atteint en plein cœur. Il ne peut pas nous laisser indifférents. À celui qui refuse d'accepter les termes de cette réconciliation, Jésus déclare que la colère de Dieu demeure sur lui. L'œuvre du Christ pour le salut de l'homme, c'est aussi une rédemption ou un rachat. Dans ce contexte, la Bible parle de la rançon que le Christ a payé pour faire de nous son bien, parce que nous étions esclaves d'un autre maître. L'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Car lorsque vous étiez esclave du péché, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans une autre lettre, l'apôtre Paul est encore plus spécifique. Il rappelle aux chrétiens de la ville de Corinthe, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tous ces textes nous montrent sans l'ombre d'un doute que le salut en Christ est inséparable de la remise de nos fautes, c'est-à-dire que nous ne portons plus désormais la culpabilité du mal qui était en nous. C'est ce que la Bible appelle aussi une justification. Le verbe « justifier » se retrouve plus de 40 fois dans le Nouveau Testament. Il exprime une des grandes réalités de la vie chrétienne. Il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cette phrase traduit l'impasse sans issue dans laquelle l'homme se trouve. Il lui est impossible de se justifier lui-même. Mais le verset suivant déclare la bonne nouvelle de l'Évangile. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi, la justification se traduit immédiatement dans le pardon. Elle est le pardon, le fait que les péchés de l'homme ne lui sont plus imputés, que la culpabilité de l'homme est effacée, que l'homme étant considéré comme juste, la barrière dressée par le péché ne le sépare plus de Dieu. L'homme est débarrassé de l'atmosphère asphyxiante dont nous avons parlé au début de notre causerie. Il respire de nouveau un air pur et vivifiant. On peut considérer la justification comme l'action d'un créancier qui décide de remettre cette dette à son débiteur et qui tient ce dernier désormais pour quitte. C'est ainsi que se manifeste la grâce de Dieu. Cependant, cette grâce n'atteint que ceux qui croient et qui obéissent à Christ. En effet, c'est par la foi et le baptême que le croyant participe à la mort et à la résurrection du Christ. Et tout ce que Christ a fait pour lui au cours de sa vie, et par sa mort et sa résurrection, lui devient personnel. Tout cela lui devient personnel. Cette vérité devrait détruire, d'un seul coup, cette tendance qu'ont certains croyants à établir une sorte de comptabilité de leurs bonnes œuvres, comme s'ils pouvaient ainsi mériter le salut. L'apôtre Paul s'élève avec véhémence contre une telle expression d'orgueil et de suffisance. « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, dira-t-il avec flamme, car notre sagesse, c'est le Christ, notre justice, c'est le Christ, notre sanctification, c'est le Christ, comme il est aussi notre rédemption. Il est devenu tout cela pour nous. Et ce n'est pas là une acquisition personnelle de l'homme, c'est un don gratuit de la grâce de Dieu qui répond à la foi de l'homme. En réalité, lorsque Dieu regarde un nouveau chrétien, ce n'est plus l'homme charnel qu'il voit, c'est l'homme divinisé en Christ. C'est l'homme caché, en quelque sorte, dans la tunique du Christ. Paul dit à cet égard, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Chers amis, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous revêtir de ce vêtement glorieux qui sera votre réconciliation avec Dieu, votre pardon et votre salut ?